Je déparle à voix haute dans les haut-parleurs, crevant les cauchemars, et d'autres fois encore déambulant dans un orbe calfeutré. Les larmes poussent comme de l'herbe dans mes yeux. J'entends de loin, de l'enfance ou du futur, les eaux vives de la peine lente dans les lilas. Je suis ici à rétrécir dans mes épaules, je suis là, immobile et ridé de vent. C'est quelques mots de Gaston Miron pour introduire Yannick Reich, qui a commencé sa carrière universitaire au Canada, à l'Université de Toronto. Rapidement sensibilisé à la culture québécoise, elle rencontre Gaston Miron à Montréal, à Paris et à Aix-en-Provence, où elle poursuivra sa carrière universitaire. Elle publie notamment sur Colette, notamment elle a participé à l'édition de La Pléiade pour ses œuvres, et également à la littérature québécoise, dont deux essais sur Miron, Gaston Miron, le forcené magnifique, et Gaston Miron, tel un naufragé. Poète elle-même, elle est publiée dans des anthologies, en revues et en recueils. Je vous laisse la parole.
D'abord, je remercie Bernard et le Cercle Aliénor de m'accueillir pour la deuxième fois après Colette. Je suis vraiment contente de venir parler de Miron, qui est bien connu, je pense, des poètes, mais beaucoup moins du public en général. Donc, on aura de cesse de parler de lui chaque fois que ça sera possible. Gaston Miron, le forcené magnifique. Même si j'avais choisi ce titre pour mon premier essai sur Gaston Miron, ce n'est pas de moi. C'est Gaston Miron qui écrit dans L'homme rapaillé, pour parler de lui-même, qu'il s'invente le forcené magnifique. Et il précise, dans un entretien avec le poète Jacques Brault, qui était aussi un immense poète, on pourrait faire une présentation de Jacques Brault, un superbe poète, il dit « Magnifique, comme un sportif qui a fourni un effort magnifique, même s'il est vaincu. Un magnifique effort. C'est cela pour moi, être magnifique à l'intérieur d'un poème. » Et voilà comment Miron nous embarque en poésie. Mais comment aborder l'homme, aborder le poète? J'ai choisi peut-être un peu personnellement trois dates et trois événements pour une toute petite introduction. 1996, c'est le décès, c'est la mort de Miron qui a eu les obsèques nationales, c'est le seul poète à avoir eu ses obsèques. Et il y a un concert de louanges et bien sûr un hommage officiel. Et je cite le premier ministre du Québec qui dit « D'autres peuples ont eu Pablo Neruda, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. Le peuple québécois a eu Gaston Miron. » Deuxième date et deuxième événement, parce que vous verrez que ces trois événements mettent en lumière des points identiques. L'édition définitive de l'homme rapaillé en 1999, le poète martiniquais Édouard Glissant fait une préface et il dit cette phrase « La poésie de Miron est inguérissable du Québec. Le Québec de Miron est inguérissable de sa langue. » Vous voyez les liens étroits avec, bien sûr, le territoire. Enfin, l'année dernière, pour le choix... pour le choix du programme de l'agrégation, en 2025, l'agrégation de lettres modernes choisit pour la section littérature comparée trois poètes sous le titre Poésie d'Amérique. Et ces trois poètes sont Miguel Angel Asturias pour les poèmes indiens, l'amérindienne Joy Arro et Gaston Miron. Il cherche à s'asseoir. Donc, nous avons là trois événements, trois dates qui montrent les liens étroits que l'on a fait, soit en titre officiel, soit à travers des écrivains et des poètes, les liens étroits avec un territoire et avec une culture dominée, une langue dominée. Donc nous avons une première approche de Miron que l'on va tenter de suivre à travers, bien sûr, l'homme rapaillé, à travers son œuvre, qui montre à quel point Miron apparaît comme le chantre national de son pays. Étiquette qu'il a fortement réduit pendant de nombreuses années, à tel point qu'on ne situait pas Miron autrement que comme chantre national. Je vous propose donc de suivre dans un premier temps les étapes importantes de la vie de Gaston Miron à travers son œuvre, pour voir dans une deuxième partie comment Miron et sa poésie débordent le cadre historique. Hein, comment Miron atteint, comme on commence à le dire enfin aujourd'hui, atteint l'universel. Aborder sa vie, ce n'est pas difficile, parce que Miron lui-même se définit uniquement à travers sa poésie. Je n'ai pas de biographie. Mes poèmes seuls sont autobiographiques. Ce que j'essaye de faire quand j'écris, c'est de trouver une démarche d'identité, parce que je me suis aperçu que je n'avais pas d'identité au départ, dit-il dans un long chemin. La ville de Miron, il faut la situer tout de suite. C'est une page importante de l'histoire du Québec. Née en 1926, dans un Canada français, il meurt en 1996 au Québec. C'est-à-dire que, entre-temps, quand l'œuvre est publiée, on ne parle plus de Canadiens français, on parle de Québécois. Entre-temps, c'est pour ça que c'est vraiment une page d'histoire, entre-temps, les Canadiens français ont pris conscience de leur identité et le mot Québécois va progressivement éliminer le terme de Canadien français. C'est pas rien. Si nous avions eu ce problème-là, on comprendrait encore mieux Gaston Miron. Donc, l'origine, les paysages de l'origine. À l'origine, Gaston Miron n'est pas né à Montréal. Il est né à 100 km au nord de Montréal, dans un petit village, et dans un village où il y a une communauté qui est très soudée. Il y reviendra à plusieurs reprises. Il est né à Sainte-Agathe-des-Monts, un petit village où constamment il sera en admiration devant les rivières, devant les lacs. Il va apprendre les noms de la faune, les noms de la flore, et il dira souvent l'illumination qu'il a eue de ce paysage. C'est un point important, parce qu'en 1960, au moment de la Révolution tranquille, beaucoup de Québécois rejettent les origines terriennes, les origines liées aux ancêtres. Et Gaston Miron sera fidèle jusqu'à la fin à ses ancêtres. Il le dira d'ailleurs, hein, il dira qu'il est « je suis », dit-il, et c'est ça, c'est la première approche à laquelle je tiens, parce qu'on associe Miron au Québec, mais Miron se définit d'abord comme un forestier. Il dit « je suis un forestier ». La vraie activité, c'était la chasse, la pêche, le braconnage. Donc, écartons l'idée que Miron aurait des origines paysannes. Il n'est pas paysan, hein, c'est un homme des territoires, du grand large, un homme qui jamais ne s'enferme sur des racines villageoises. Deuxième élément, cette collectivité, c'est d'abord, je suis obligée de parler très fort. Vous m'entendez? Non. Non, mais j'arrive à parler
comme
ça. C'est
comme tu veux.
Oui, non, j'arrive.
Il y a du bruit toujours.
Ce qui caractérise cette collectivité, c'est qu'elle est attachée à des valeurs traditionnelles qui sont la famille. Gaston Miron est le fils d'une famille nombreuse, 5 enfants, 4 filles, un garçon. Il faut que vous ayez en tête la revanche des berceaux, hein, fin 19e siècle. Il faut à tout prix agrandir le peuple canadien-français. Donc, l'idéologie et l'Église poussent beaucoup à développer les familles. Moi, j'avais fait un film sur mon, j'ouvre une parenthèse, j'avais fait un film pour TF1 il y a des années sur Montréal. Et j'avais trouvé un petit dessin caricatural qui montre deux familles. Alors on voit un prêtre qui passe, un curé qui passe devant ses familles. Alors la première photo, c'est le premier dessin, c'est la femme est enceinte, elle a 4 petits-enfants autour d'elle. Et puis le deuxième villa, deuxième maison à côté, la femme est plate, sans enfant. Et il y a le curé du village qui lui fait « Et après ?» Et alors ?» C'était tout. Mais ça, on disait long sur la nécessité de développer ces familles. Donc, la famille, très important. La religion, hein, c'est elle qui assure l'ordre social. Et là encore, si vous lisez l'œuvre de Miron, vous verrez qu'il y a toute une dimension christique du personnage, hein, le chemin de croix de sa vie, le côté torturé, souffrant, et beaucoup, beaucoup de références au Christ. Et là, c'est encore une fidélité de Miron. Il aura des obsèques religieuses et Miron ne reniera jamais, même s'il rejette le poids de l'Église sur l'éducation, s'il veut démocratiser l'enseignement, il sera toujours attaché à cette dimension christique. Ça, c'est Miron. C'est un aspect de lui que j'aime beaucoup, c'est cette fidélité qu'il a à l'égard de ses ancêtres, même s'il va critiquer la société canadienne-française, son mutisme, son humiliation. Voilà, alors ça, c'est un premier point. Une enfance heureuse, mais malheureusement, des traumatismes. Premier traumatisme, il a 10 ans et il est sur la galerie, hein, devant sa maison, et il feuillette des journaux et il entend son grand-père qui lui dit « Ah, tu sais, c'est terrible quand on ne sait pas lire et écrire. J'ai tout le noir dans ma tête. » Moi, le noir, moi, le forcené magnifique. On verra dans la deuxième partie à quel point le mot noir a développé un imaginaire absolument extraordinaire. Et Miron est surpris, parce que son père, comme son grand-père, ce sont des forestiers, ce sont des héros pour lui. Il se dit, qu'est-ce que c'est ? Deuxième traumatisme, son père était charpentier, artisan, et l'été, dans le village, beaucoup de Montréalais anglophones avaient fait construire des villas et s'adressaient aux Canadiens français pour leur faire des charpentes, enfin, travailler. Et le père de Miron, comme tous les petits Canadiens français, essayait de toutes ses forces de pouvoir répondre en anglais, de comprendre l'anglais, et c'était un charabia. Et Miron écoutait et voyait son père humilié parce qu'il ne savait pas parler anglais. Donc, dans l'enfance se développe, à l'égard de la langue anglaise, une sorte de malaise, d'inquiétude, d'incompréhension, parce que son père lui dit « Si tu veux pas être comme moi, avoir un petit job, il faut apprendre l'anglais. » Donc, contradiction, quoi ? Ma langue familiale, ma langue maternelle, est une langue dévalorisée. Bien, le père meurt, et bien sûr, les soucis financiers arrivent, la mère vend la maison, et lui, les enfants s'arrêtent de faire des études, sauf Miron, qui est pris en charge par les frères, et il va pouvoir continuer à faire des études dans un pensionnat religieux et peut-être devenir prêtre. Et donc il part à Granby, il fait ses études, sort de là avec un brevet d'instituteur. Finalement, il va à Montréal et au bout d'un an, il ne se sent pas suffisamment prêt à être prêtre. Il se défait de ses vœux et est lancé dans la grande ville. Peut-être, Alain, tu peux commencer à dire dans quel état il est. Il arrive, il est tout seul, il n'a pas d'argent, il fait des petits boulots. Et on va voir le ton de cette découverte de la ville.
Vous me pardonnerez de ne pas être très en voix, j'ai des problèmes parce que...
Ça ?
Non,
ça.
Je suis seul, comme le vert des collines au loin. Je suis crotté et dégoûtant devant les portes, les yeux crevés comme des œufs, pas beaux à voir. Et le corps écumant et fétide de souffrance. Je n'ai pas eu de chance dans la baraque de ma vie. Je n'ai connu que de faux aveux, de biais, le pire. Je veux abdiquer jusqu'à la corde usée de l'âme. Je veux perdre la mémoire à fond d'écrou. L'automne est venu. Je me souviens presque encore. On a préparé les niches pour les chiens, pas vrai? Mais à moi, à mon amour, à mon mal gênant, on ouvrit toutes grandes les portes pour dehors. Or, dans ce monde où je ne sortirai, bon Dieu, que pour payer mon dû, et où je suis gigué déjà, fait comme un rat par toutes les raisons de vivre, hommes, chers hommes, je vous remets volontiers ma condition d'homme, de je m'étends par terre dans ce monde, où il semble meilleur être chien qu'être homme.
Voilà. Alors, vous remarquerez que la dérision, parce que ça, c'est un autre aspect de Miron que parfois on ne mesure pas. Dans la grande souffrance, il passe à l'ironie, à la dérision. C'est que Miron, moi je l'ai rencontré, certains d'entre vous l'ont peut-être rencontré, il se disait laid, mais c'était un homme tellement fraternel, accueillant, que j'ai jamais vu cet homme laid. Il a écrit un poème qui s'appelle Le Laid. Et il n'a eu que des rencontres très fugitives au début, des amours ratées. Et il souffre parce qu'il est seul, il ne voit pas sa famille. Les quelques amours qu'il a sont des amours fugitifs, qui n'aboutissent à rien. Il n'a pas d'argent. J'ai lu des correspondances où on apprend que pendant des mois, il arrivait à ne manger qu'une pomme par jour. Enfin, il était très, très misérable. Donc, on voit ce rapport de l'homme au chien. Mais Montréal, c'est quand même la ville où il va entrer dans des mouvements de jeunesse, développer des amitiés, rencontrer Olivier Marchand, avec lequel il créera la grande maison d'édition Hexagone. Et il va élargir sa souffrance à la ville elle-même. Je pense que ce serait intéressant de comparer et de lire Monologue de l'aliénation délirante, où Miron est un marcheur, un errant, dans une ville de deux solitudes. Dans les années 1940, l'écrivain anglais écrit un roman qui s'appelle « Two Solitudes hein. ». La ville est divisée en deux, Hugh MacLellan, hein, deux solitudes. Gabrielle Roy, la française, la canadienne française, écrira la même chose. Grande solitude pour Miron qui erre dans la ville.
Le plus souvent, ne sachant où je suis ni pourquoi, je me parle à voix basse, voyageuse, continuellement, continuellement, et d'autres fois, en phrases détachées, ainsi que se meuvent chacune de nos vies. Puis je déparle à voix haute dans les haut-parleurs, crevant le cauchemar, et d'autres fois encore, déambulant dans un orbe calfeutré, les larmes poussent comme de l'herbe dans mes yeux, J'entends de loin de l'enfance ou du futur les eaux vives de la peine lente dans les lilas. Je suis ici à rétrécir dans mes épaules. Je suis là, immobile et ridée de vent. Or, je suis dans la ville opalante. La grande Sainte-Catherine Street galope et claque dans les mille et une nuits des néons. Moi, je gis, murée dans la boîte crânienne, dépoétisée dans ma langue et mon appartenance, déphasée et décentrée dans ma coïncidence. Ravageur, je fouille ma mémoire et mes chairs, jusqu'en les maladies de la tourbe et de l'être, pour trouver la trace de mes signes arrachés, emportés, pour reconnaître mon cri dans l'opacité du réel. Or, je descends vers les quartiers minables, bas et respirant dans leurs remuges. Je dérive dans des bouts de rue décousus. Voici ma vraie vie, dressée comme un hangar, débarras de l'histoire. Je la revendique, je refuse un salut personnel et transfuge. Je m'identifie depuis ma condition d'humilité. Je le jure sur l'obscure respiration commune. Je veux que les hommes sachent que nous savons.
Bon, vous voyez que le ton a changé. La colère traverse Miron. Il y a le désespoir, bien sûr, mais aussi la colère. Alors, on a des signes de la ville, hein, le quartier, les quartiers de l'Est, les quartiers pauvres, la grande Sainte-Catherine qui divise la ville en deux. Lieu des spectacles, mais Miron refuse de se laisser abattre et surtout introduit cette notion de langue aliénée. C'est que Miron voyage un peu, il va sur les autoroutes, il va dans les restaurants, et qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas du français ou de l'anglais, il voit des traductions. Il voit que le français, c'est du, comme il le dira, c'est du traduit du. Alors, il nous donne quelques exemples. Il dit... Je n'ai pas su quel était mon nom. Mon nom est Pissoup, mon nom est Pepsi, mon nom est Marmelade, mon nom est Frog, mon nom est Speak White, mon nom est Dishwasher, mon nom est Floor Sweeper, mon nom est Bastard, mon nom... Et il voit, pire que cela, il voit des traductions du traduit du. Ainsi, il prend certaines routes. Ne dépassez pas quand arrêté. Là, vous êtes en voiture. Ne dépassez pas quand arrêté. Partez au vert. Et donc, il dit alors, je suis un monsieur Jourdain de l'aliénation linguistique. Vous voyez, la prise de conscience, on est dans les années 55, il commence à écrire les grands groupes de monologues de l'aliénation délirante, de la marche à l'amour. Mais Miron a besoin d'action. Et pendant un certain temps, il ne va pas pouvoir écrire, il va mettre en œuvre avec quatre autres personnes les éditions de l'Hexagone. C'est une grande maison d'édition, parce qu'on connaissait mal à l'époque la littérature canadienne-française, la poésie québécoise, on connaissait très mal Anne Hébert, on connaissait bien sûr les poètes aussi, et tous ces poètes écrivaient dans des cercles restreints, n'étaient pas du tout ouverts au grand public. Donc un des premiers... travaux, les premiers souhaits de cette maison d'édition, c'est d'étendre la connaissance ces auteurs. Il faut dire que Miron, avant 1955, ne lisait pas la littérature française, hein, il lisait la littérature canadienne française. Il dit dans un peu plus tard, dans une note, je lis un poème d'Éluard. Et je lis, elle est debout sur mes paupières. Vous connaissez peut-être, c'est le poème de l'amoureuse. Je lisais ça et je ne comprenais pas. Hein? On mesure le travail que va faire Miron pour découvrir une écriture moderne, une écriture nouvelle. Et il va progressivement le faire parce que Miron était un grand lecteur et et bien entendu va développer ses connaissances. Alors l'Hexagone, donc c'est un, il va travailler là pendant presque 30 ans, faire connaître les poètes de l'époque, poètes qui ont centré beaucoup leurs écrits sur ce qu'on a appelé la fondation du pays, le thème de la fondation du pays. Et Miron ne fera pas. Mais il va aussi travailler à développer une réflexion sur la langue. Il commence à lire les théoriciens de la décolonisation. Il lit Mémy, Bach, il lit Fanon, Franz Fanon, et il va découvrir aussi, ils sont en relation avec la revue Esprit en France, et il lui vient aux oreilles par un de ses membres qu'ils ont une mentalité de coloniser. Et ça, ça fait tilt dans l'oreille de Miron. Coloniser ? Comment coloniser ? Mais jusque-là, il ne se sentait pas du tout colonisé. Donc il va développer cette réflexion et il va en prendre acte lorsqu'il va en France. En 1960, Miron a 30 ans, il est né en 26, enfin pas 30 ans, et pour la première fois, il va en France. Et alors, sa position est très intéressante. D'abord, il découvre la richesse de la langue française. Mais loin de voir dans cette richesse une raison de plus de s'humilier, de se sentir aliéné, il mesure sa différence. Et il va prendre conscience que dans sa langue, il n'a rien de français. Il n'est plus français. Sa langue a évolué, sa langue appartient à l'Amérique, au continent nord-américain. Peut-être tu pourrais lire ce passage des compagnons des Amériques.
Compagnons des Amériques, Québec, ma terre amère, ma terre amande, ma terre d'haleine dans la touffe des vents. J'ai de toi la difficile et poignante présence avec une large blessure d'espace au front, dans une vivante agonie de roseau au visage. Je parle avec les mots noueux de nos endurances. Nous avons soif de toutes les eaux du monde. Nous avons faim de toutes les terres du monde. Dans la liberté criée de débris d'embâcle, nos feux de position s'allument vers le large. L'aïeul prière à nos doigts défaillantes, la pauvreté laissant comme des fers à nos chevilles. Mais cargue-moi en toi, pays, cargue-moi et marche au rond le cœur de tes écorces tendres. Marche à l'arête de tes dures pluies d'érosion, marche à tes pas réveillés des sommeils d'ornières et marche à la force épissure des bras à ton sol. Mais chante plus haut l'amour en moi, chante, je me ferai passion de ta face, je me ferai porteur de ton espérance, veilleur, guetteur, coureur, à l'heure de ton avènement, un homme de ton réquisitoire, un homme de ta patience raboteuse et varlopeuse. Mais donne la main à toutes les rencontres, pays, toi qui apparais, par tous les chemins défoncés de ton histoire, aux hommes debout dans l'horizon de la justice, qui te saluent, salue à toi, territoire de ma poésie.
Alors, effectivement, c'est ce qu'il dit. Moi, le canaillin, le passeur-table, l'enraciné, le forestier, l'humusien, le continenteux, oui, Américain, je le suis, je le constate, et loin de me cabrer à cette idée, cette observation, j'en suis fier de jour en jour. Alors, il dit Américain, hein, il ne dit pas États-Unien, il se sent continental, il se sent lié aux grands espaces et à une ouverture qui n'est pas lié à la spécificité du Québec, parce que de Paris. Il évoque Paris quand il dit « le cœur serré comme les maisons d'Europe ». avec les maigres mots frileux de mes héritages, avec la pauvreté natale de ma pensée rocheuse. J'avance en poésie comme un cheval de trait. Alors, j'aime bien cette phrase, avec le cœur serré comme les maisons d'Europe. Il y a cette ouverture de Miron au grand souffle américain, qui englobe l'Amérique latine, bien entendu. Donc, cette découverte de Paris lui fait connaître beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes. Il rencontrera Guillevic, entre autres, et Miron retourne au Québec, mais la situation a changé. En 61, il aura passé près de 18 mois à Paris, et lorsqu'il rentre, ce n'est plus le Canada français, c'est le Québec. C'est-à-dire qu'en 1960, on est sorti de ce qu'ils ont appelé à l'époque, et les historiens ont un peu revu la notion, on est sorti de la grande noirceur, c'est-à-dire les années, les décennies où le premier ministre Maurice Duplessis a maintenu le Canada français dans un immobilisme, pas économique, mais dans un immobilisme social. Il s'est beaucoup appuyé sur le clergé et il a développé une censure très forte à l'égard de tout mouvement un peu avant-gardiste. Or, dans les années 1945-1950, commence à naître la révolution tranquille, c'est 1960 avec un changement de gouvernement. Mais dès les années 1945, plusieurs événements montrent qu'il y a un bouillonnement dans des petits milieux intellectuels au Québec. Il y a en particulier le mouvement automatiste, qui est un mouvement proche des surréalistes, avec Gauvreau, une poésie qui prend un peu ses racines dans le surréalisme. Il y a des revues qui sortent. Mais Miron, qui a fréquenté Gauvreau, n'est pas du tout sensible à ces transformations. Donc lorsqu'il arrive, il est surpris de voir le changement très fort qui a lieu au Québec avec la venue au pouvoir de Le Sage, qui va lui démocratiser l'enseignement, qui va ouvrir la parole aux poètes, aux écrivains, les chanteurs. C'est le moment où on va pouvoir découvrir en France un certain nombre de chanteurs, qui même dont certains aideront les chanteurs français à être autrement sur scène. Et Miron se dit, mais c'est pas possible, là il faut que je m'engage. Donc c'est la période de militantisme de Miron, qui s'engage dans des mouvements proches qui veulent l'indépendance, et qui en même temps l'amène à écrire des textes qui seront davantage engagés, ou peut-être des poèmes de circonstances qui l'amèneront à citer des noms propres à ces mouvements indépendantistes et aussi à certains événements dramatiques comme la crise d'octobre de 1970, où un mouvement proche de l'extrême gauche va enlever des personnalités et l'une de ces deux personnalités sera tuée. Immédiatement, le fédéral envoie l'armée, il y a les mesures de guerre, et Miron sera emprisonné pendant 15 jours, c'est le moment de le dire, en 1969, Miron a une fille, a un enfant, et il l'élèvera seul jusqu'à la fin. Il aura un rapport très étroit avec cet enfant, Emmanuel. C'est elle qui ouvre le recueil dans le poème liminaire de l'homme rapaillé. Et il sera mis en prison, et personne ne fera des amis, viennent s'occuper de sa fille. Enfin, bon, il est dans une mauvaise situation, mais il en ressortira 15 jours après. Cela a profondément marqué Miron. 1970, tous ses amis
pousse Miron à publier. Parce que Miron, depuis 1955 jusqu'à 1970, publie dans une revue, dans un journal, des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là. Pour ça, quand je vais parler de l'homme rapaillé, très rapidement, il va rassembler des textes où il change un mot, il change un vers, et il travaille, c'est pour lui, il le dit, ce n'est jamais fini. Je continue à faire cela jusqu'à la fin. Alors, je voudrais brièvement terminer cette vie de Miron. 1970 est publié à Montréal la première édition de L'Homme rapaillé. Dans cette première édition apparaissent des textes de prose. Si vous vous intéressez à Gaston Miron, c'est bien de pouvoir lire aussi les textes en prose, parce que Miron, qui a tant de mal à écrire, qui est toujours humilié devant cette langue pour trouver le mot juste, quand il s'agit de s'expliquer, il se laisse aller. C'est le Miron qu'on connaît, parleur, poussant des cris, attirant l'attention. C'est très très intéressant de lire les textes en prose de Miron. 1970, dans cette édition, vous avez des textes en prose. Dans la dernière édition de L'Homme rapaillé, sa compagne Marie-Andrée Gaudet et ceux qui ont travaillé avec elle n'ont gardé que deux textes en prose qui expliquent la poésie. Donc c'est pour cela qu'ils ont gardé ces textes. Hein. Mais les textes en prose sont extrêmement intéressants. Donc, il est publié, c'est le grand succès. Miron n'estime pour autant que ce n'est pas bon, qu'il va falloir pour lui recommencer et recommencer. Il revient en France, il a des prix, vous savez qu'en 1981, je crois bien, il passe à Apostrophe avec Bernard Pivot, peut-être certains d'entre vous ont vu cette émission. Et là, Miron, sans honte, devient bien le porte-parole de la culture québécoise, de la littérature québécoise, et insiste essentiellement sur le problème de l'aliénation de la langue, des problèmes de diglossie. Est sorti de l'histoire du Québec pour vraiment s'intéresser à la question de la langue. Il rencontre bien sûr des grands poètes du monde francophone. Alors, je pense que maintenant nous pouvons... la fin de sa vie pourrait être considérée comme plus paisible, puisqu'il a une compagne, il a tous les honneurs, sa fille, il a une bonne relation avec sa fille, mais Miron, jusqu'à la fin, ne sera pas tranquille à l'égard de son œuvre, même s'il estime qu'elle est définitive en 1996. Il meurt d'un cancer avant sa mort. Je pense que nous sommes en poésie. Il est intéressant d'aborder l'homme rapaillé et voir comment Miron sort du cadre québécois. Certes, il représente le Québec, il est associé au Québec par l'amour qu'il lui portait, mais Miron, il faut le dire, c'est une des grandes voix, et on pourra ensemble s'interroger sur le fait qu'il n'est pas si connu par rapport à Césaire, bon, Senghor, bien sûr, il a été président, mais quand même, par rapport à beaucoup d'autres poètes. Et cependant, lorsqu'on entre dans son œuvre, on mesure par son imaginaire, par la qualité de son timbre, de la puissance et de la grandeur de Miron. Alors, L'Homme rapaillé. Voilà un titre curieux. Bon, chaque fois que j'ai eu à parler de L'Homme rapaillé à mes étudiants, « Rapaillé, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi rapaillé ?» Et rapaillé, c'est un terme certainement français à l'origine, mais au Québec, cela veut dire mettre de la paille au départ autour des arbres et rassembler. Dans la langue courante, on dit « rapaille tes affaires avant de partir hein ». Rassemble tes affaires. Le mot a été, il a employé ce terme à plusieurs reprises. Il avait d'abord d'autres termes en tête. Et il avait des mots comme ressouder. Bon, pour faire face à... Finalement, le terme est choisi.
Et on peut se demander pourquoi. Donc il y a deux lectures à faire. L'homme rapaillé, c'est bien sûr Miron, hein, enfin le jeu qui est dans le texte, qui va rassembler tous les aspects de sa vie, hein, dont on peut voir à quel point il se sentait morcelé, défait par de multiples échecs amoureux. Mais c'est aussi et surtout le titre du recueil. Le recueil est fait de morceaux de texte. Il y a un ensemble de textes qui s'appelle « Courte pointe ». Et on voit bien comment il a rajouté des morceaux les uns à côté des autres pour faire une unité. Je vous lis le premier poème parce qu'il est intéressant et il porte le titre même de l'homme rapaillé. Poème liminaire. Pour Emmanuel. Emmanuel, c'est sa fille. J'ai fait de plus loin, bien, j'ai fait de plus loin que moi un voyage abracadabra. Hein, ça, c'est Miron. Il a des mots comme ça. Il y a longtemps que je ne m'étais pas revue. Me voici en moi comme un homme dans une maison qui s'est faite en son absence. Je te salue, silence. Je ne suis pas revenue pour revenir. Je suis arrivée à ce qui commence. Donc, je suis arrivée à ce qui commence. Cela veut dire qu'on va faire un voyage rétrospectif sur la vie de Miron. Hein. Là, quand on prend ce poème, on comprend que tous les malheurs, tout ce qui est arrivé, est avant, que maintenant il est rapaillé. Donc, parallèlement à ça, il y a les proses, dont il faudra les lire. Les proses portent sur, justement, ces différents moments de vie qui sont difficiles. Voyage abracadabrant qui se traduit dans l'œuvre par une marche qui va prendre toutes sortes de formes. Il court, il fonce comme un bison, il marche lentement. Alain, il y a peut-être un poème, le dernier, qu'il faudrait lire. Non, non. Tu as le Dame Note Canoc ?
Marche à l'amour extrême.
Non, mais après on le lit. Oui, on va le lire aussi.
Non,
mais oui, enfin l'un ou l'autre. Alain peut-être commence par ça, parce que le Dame Note Canoc, on le lira après.
Comme un bénédic, c'est bien ça.
Oui.
Il fait partie du recueil ou c'est un poème.
Non, non, c'est pas. C'est, je veux que tu prennes celui où il marche comme un rat.
Bon, je le lis déjà dans la bénédic, c'est un poème
important. Bon, ben dis-le.
Jamais je n'ai fermé les yeux, malgré les vertiges sucrés des euphories, même quand mes yeux sentaient le roussi ou en but pour affaire montante des chagrins. Car je tremble jusqu'à la moelle des os, jusqu'aux états d'osmose incandescents, dans la plus noire transparence de nos sommeils. Tapis au fond de moi, tel le fin renard, alors je me résorbe en jeu, je mis mes parades, ma vérité, le mal d'amour et douleurs et joies. J'écris à faire un fou de moi, à me faire le fou du roi de chacun, volontaire aux enchères de la dérision, mon rire envolé de gros lots par vos têtes, en chaviré de pluie dans vos jambes. Mais je ne peux me déprendre du conglomérat, je suis le rouge-gorge de la forge, le mégot de survie, l'homme agonique.
L'homme agonique. L'homme agonique qui est le titre aussi d'une grande série. Bon, alors, en fait, Miron est un marcheur.
Dans la marche à l'amour que tu cherchais ?
Comment ?
Dans la marche à l'amour ?
Après.
Après.
Ouais. Enfin, tu peux le prendre.
Non, mais je
Oui, ben. Oui.
Donc le Dame Note Canoc.
Oui, le Dame Note Canoc.
C'est toi qui
parles. Attends, je vois ça.
Nous sommes nombreux, silencieux, raboteux, rabotés dans les brouillards de chagrin cru. À la peine à piquer du nez dans la souche des misères, un feu de mangeoire aux tripes. Et la tête, bon Dieu, nous, la tête, un peu perdue pour reprendre nos deux mains. Oh, nous, pris de gel et d'extrême lassitude. La vie se consume dans la fatigue sans issue. La vie en sourdine et qui aime sa complainte. Aux yeux d'angoisse travestis de confiance naïve. À la rétine d'eau pure dans la montagne natale. La vie toujours à l'orée de l'air. Toujours à la ligne de flottaison de la conscience. Au monde, la poignée de porte arrachée. Ah, sonnez, crevez, sonnaille de vos entrailles. Riez, sabrez à la coupe de vos privilèges, grands hommes, classe, écran, qui avez fait de moi le sous-homme, la grimace souffrante du Cro-Magnon, l'homme du Chipouet, l'homme du Chipwork, le damned canique. Seulement les genoux, seulement le ressaut pour dire.
Enfin, vous voyez qu'on retrouve l'ampleur de la voix de Miron qui, chien, hein, seulement les genoux pour dire, le damned canuck. Le damned canuck, tout le monde le comprend.
Non.
C'est le damned canuck, c'est le mot employé par les anglophones, maudit canadien, maudit, hein, pour de mépris pour qualifier le canadien français. Et Miron a entendu cela maintes fois, le damned canuck, C-A-N-U-C-K, canuck, oui.
Ça veut dire quoi, canuck?
Hein, canuck?
Ça veut dire...
Canuck, je ne sais plus, le damned canuck, c'est le chien, le chien, le mauvais. Hein? Mais c'est ça, il va employer ce terme à plusieurs reprises dans son mépris, quoi, mépris total, mais... On voit là l'ampleur du souffle de Miron et donc le nous qui sort du militantisme et qui montre que il part maintenant avec les siens, hein, il est avec les siens et il va développer tout cela dans une série de poèmes. Alors on n'a pas dit la marche à l'amour, tu l'as pas dit, oui, peut-être dis-le, parce que il faut sortir de cette vision très noire, très négative que nous donnent ces poèmes. Miron sera toujours celui qui rêve d'un grand amour. Hein. Il a échoué bien des fois, mais au présent, c'est sûr, il y a un amour qui est là, hein. Il y a un rêve de femme qui est là.
La marche à l'amour extrait. Tu as les yeux pères des champs de rosée. Tu as des yeux d'aventure et d'années-lumière, la douceur du fond des brises au mois de mai, dans les accompagnements de ma vie en friche. Avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif, moi qui suis charpente et beaucoup de fardoche, moi, je fonce à vive allure et entêté d'avenir, la tête en bas comme un bison dans son destin. La blancheur des nénuphars s'élève jusqu'à ton cou, pour la conjuration de mes manitous maléfiques, moi qui ai des yeux où ciel et mer s'influencent, pour la réverbération de ta mort lointaine, avec cette tache errante de chevreuil que tu as, tu viendras, tout ensoleillé d'existence, la bouche envahie par la fraîcheur des herbes, le corps mûri par les jardins oubliés, où tes seins sont devenus des envoûtements. Tu te lèves, tu es l'aube dans mes bras, où tu changes comme les saisons. Je te prendrai, marcheur d'un pays d'haleine, à bout de misère et à bout de démesure. Je veux te faire aimer la vie, notre vie, t'aimer fou de racines à feuilles et graves, de jour en jour, à travers nuits et gais, de moellons, nos vertus silencieuses. Je finirai bien par te rencontrer quelque part, bon Dieu, et contre tout ce qui me rend absent, et douloureux, par le mince regard qui me reste au fond du froid, j'affirme, oh mon amour, que tu existes, je corrige notre vie.
Alors, on n'est pas habitué à ce lyrisme, hein, à ce lyrisme qui apparaît plusieurs fois dans les textes, et là, vous voyez, on croit, il pense que cet amour va arriver, mais... Hélas, vous n'avez pas le temps de lire tout le texte. Je vais lire le dernier épisode où on voit l'aspect christique. Hélas, ça se fait pas. Alors, on a l'impression d'une marche de croix. Je marche à toi, je titube à toi, Je meurs de toi lentement, je m'affale de tout mon long dans mon âme. Je marche à toi, je titube à toi, je bois la gourde vide du sens de la vie. Je n'ai plus de visage pour l'amour, je n'ai plus de visage pour rien de rien. Parfois je m'assois, ça rejoint tous les textes qu'on vient de lire. Parfois je m'assois par pitié de moi, j'ouvre mes bras à la croix des sommeils. Mon corps est un dernier réseau de tics amoureux. Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Hein? Bon. Alors, ce texte est intéressant parce que le thème de la marche, c'est vraiment un des motifs de l'œuvre. Hein? Marche titubante, marche christique, mais marche aussi conquérante. Je fonce comme un bison à vive allure. Vous avez des termes magnifiques sur la marche. Et là, nous entrons peu à peu dans ce qui fait la qualité de la poésie de Miron. Et je terminerai sur trois aspects. Bon, le corps. Le corps est omniprésent dans l'œuvre. Il y a le corps qui marche, il y a le corps qui est à genoux, il y a le corps qui est démantelé, ma tête, il y a tout un vocabulaire et des images sur la tête, sa voix, hein, parce qu'il y a une oralité très très importante, on a dit « bon Dieu hein, », on est dans un beau poème d'amour, un poème lyrique, « bon Dieu » dit-il, et on voit apparaître la langue orale. Bon, et donc cette marche, il parle des moignons de sa voix, hein, moignons de sa voix, l'image est forte quand même, parce que moignons, on comprend que quelque part elle est coupée. Il va parler du ventre, il va parler des pieds, enfin tout le corps apparaît par morceaux. Mais cette marche n'est jamais réduite à néant. Il y a une image de verticalité, il parle même de vertical néant. Hein. C'est l'homme qui quand même restera debout. Deuxième élément, c'est le joual. Hein, quelle place faire au joual? Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas le mot joual, c'est une déformation du mot cheval. Hein. Comment tu es venu dans la langue populaire? À cheval. À cheval. À cheval. Donc cheval est devenu joual. Et joual, c'est en fait. Alors il y a eu ce qu'on a appelé une bataille du joual dans les années 60. Parce qu'il y avait ceux qui dénonçaient, qui disaient, enfin, il ne faut surtout pas parler joual, c'est notre langue abattardie. Et puis il y a ceux qui défendaient le mot joual parce que ça faisait partie de leur aliénation et qu'il fallait la montrer, ce joual. Alors, Miron, en poète, va utiliser le joual et créer des mots, il invente des mots. Il dira par exemple la batte. Alors le joual, le point important du joual, c'est l'emploi des jurons. Dans la langue québécoise populaire, il y a une sorte de rejet de tout le vocabulaire catholique qui a marqué profondément la population. Et donc on fait appel à des jurons religieux. Hein, baptême, cibole pour ciboire, batèche, la batèche de vie, bon il reprend le mot baptême, etc. Donc le joual est utilisé par Miron comme un des éléments de la culture qu'il s'agit de réintroduire. Et alors ce joual, il va le recréer, inventer des mots, je vous en donne quelques exemples. Alors que moi, d'une brunante à l'autre, je farouche de bord en bord, je barouette et fardoche et barouche. Et il déforme les mots. Là, il y a des passages, des textes qui sont super mal. Donc voilà. Et deuxième élément, donc troisième dimension religieuse, importance de l'oralité, hein, de la façon d'introduire cette oralité, la dimension religieuse, qui est très belle. Hein, il se compare beaucoup au Christ souffrant. Et la dernière, c'est, je reviens au titre de ma présentation, moi le noir, moi le forcené magnifique. Le noir a envahi l'imaginaire de Miron. C'est vraiment une grande métaphore qui est partie de la phrase de son grand-père, hein, quand on ne sait pas lire. On est dans le noir. Et Miron l'associe à la noirceur. La noirceur, c'est ce temps qui a précédé la Révolution tranquille où la population
se taisait, ne disait rien, acceptait l'humiliation dans laquelle elle était. Donc Miron va en parler comme un poète. Alors on a des images, j'ai pas tout relevé, mais il va parler de sa colère noire qu'il a en lui. Il va même, ce que je vais relever un peu partout, parler bien sûr du noir, la tâche de mon grand-père dans le noir alphabet. Je suis fait des trous noirs de l'univers. J'ai le noir éclaté dans la tête. Mais il ne va pas s'en tenir à une valeur négative, bien sûr, du noir. Il va dire, se rappelant ses origines terriennes, ma force noire des montagnes. La poésie donne vraiment à ce terme une valeur positive de lumière qui va l'accompagner dans la bourre. Je brillerai plus noir que ta nuit noire. Il sera au final le symbole même du poète qui puise dans le désespoir la force d'espérer. Moi, le noir, le forcené magnifique. Oui, je dirais la poésie de Miron, c'est vrai, elle est associée au Québec, mais elle le déborde par l'imaginaire de son univers poétique, par les images qui, à chaque page presque, nous élèvent à la dimension universelle d'un grand poète. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que Miron, c'est pas toujours facile.
Merci à Luca pour cet exposé bien clair et qui nous trace déjà des perspectives. Des questions sans doute hein. Moi j'en aurais une peut-être pour. Oui, vas-y.
Il a organisé beaucoup de récitals pour aller vers le peuple, pour que la poésie soit répandue.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Au Québec et aussi en Europe.
Oui, tout à fait. Et il a beaucoup voyagé hein, dans le monde entier. Il a été traduit et à cette occasion, ça lui a permis de parler de la littérature du Québec. Oui, tout à fait. Oui.
Est-ce qu'il a influencé la chanson?
Est-ce qu'il a
influencé la chanson, dans la chanson.
Alors lui était très sensible et c'était lié en fait à des associations auxquelles il a participé au folklore. Et moi je me souviens alors, de façon précise de sa venue à Aix. Il était invité dans une librairie, la librairie des Vents du Sud, je la cite parce qu'elle m'a soutenue dans les années 90 pour défendre la littérature québécoise. Elle achetait des livres pour les étudiants qui parfois n'allaient pas et gardaient des fonds même pour la cause québécoise. Et donc il vient à Aix et il est accueilli dans cette librairie. Il y avait beaucoup de monde. Je me souviens très très bien. Non, personne ne le connaissait, donc très peu. Tout le monde l'écoutait. Il parle. Et ça démarrait pas. Et tout d'un coup, Miron prend fourchette et cuillère et se met à taper sur son genou. C'était des façons de créer une musique. Il se lève et il se met à faire une gigue québécoise. Alors pour répondre à votre question, il était très sensible au folklore de ses ancêtres. Il était capable de giguer, il avait un harmonica, il sort son harmonica. Alors, délire du public, bien sûr, peu habitué à cette façon de fonctionner, et il avait emporté l'enthousiasme de tout le monde. Hein. Et ça, c'est Miron.
Mais alors, pour prolonger la question, vous êtes de Charlevoix, par exemple, ou...
Oui.
Non.
Bon, je ne suis pas une spécialiste de la poésie, mais je... Non, je ne vois pas trop.
Pas de lien, pas
non.
De...
Non, c'était un homme de la parole, ça c'est vrai. C'est un grand comédien, mais peut-être pas la poésie. Hein, pas la chanson.
Pas la chanson. Mmh,
mmh. Bon, il avait déjà pas mal de cartes à son... pour lui. Ouais.
Et vous ne pensez pas que cette relation avec Césaire et tous ses poètes, il a insisté sur le noir également.
c'est pas impossible, hein. C'est lié à son enfance. Ce mot noir de son enfance l'a traumatisé quand il entend son grand-père lui dire « moi j'ai le noir dans la tête ». Alors après, oui, bien sûr, hein, ça ne fait que renforcer le... Mais bon, le colonialisme, ils ne sont pas tous noirs, hein. Oui, donc à Césaire, il avait lu Césaire. D'ailleurs, quand il lit Césaire dans les années 55, il dit, j'ai plus rien à écrire, il a tout dit. Ouais. Il est absolument estomaqué par l'œuvre de Césaire, dont il se rapproche un peu. Là.
Est-ce qu'il y a des idiomes canadiens, des mots, des expressions qui sont passées dans la langue française?
Oui. Oui, je n'ai pas en tête, mais... Oui, le mot courriel. Alors, là, je veux bien répondre, parce que moi, j'ai voulu défendre le mot courriel. L'Académie française a pris mêlé. Mais les Québécois ne comprennent pas. Moi, j'ai dit, ils ont courriel, courrier, envoyer du courriel. Et puis, quand vous jetez votre courrier, vous rentrez dans le pourriel, c'est du pourriel. Donc, ils sont capables d'inventer. Ben, nous, non.
Mais oui.
Nous, on a pris mêlé. Ça me met en colère. Je garde toujours courriel.
Moi aussi.
Ah, toi aussi. Ah, voilà. Non, mais il faut quand même comprendre. C'est mon enseignement, en partie, je l'ai marqué là-dessus, j'ai dit, nous n'avons pas une langue française. La langue française, elle est plurielle. Il faut voyager. Quand on voyage, on voit tout ce qu'apporte la Belgique, ce que nous apporte l'Afrique, nous apporte l'Algérie, bon ça. Et ne parlons pas du Québec. Notre langue est pleine de ces mots-là. Donc, la langue française, elle n'appartient pas qu'à l'Hexagone, elle appartient à tout le espace francophone. Vous êtes bien d'accord avec moi.
À propos de langues colonisées, il y a un entretien de Georges-Emmanuel Plancier qui va au Québec et qui s'étonne un tout petit peu de ce que les Québécois ne sont pas conscients de la colonisation des primo-arrivants, enfin des autochtones. Est-ce que Gaston Miron était parmi eux? Il ne s'intéressait pas trop.
Non, c'est récent.
Il sentait sa propre colonisation par l'anglais, oui. Mais pas celle qui...
C'est très intéressant ce que tu dis là. Il y a deux éléments qui renforcent cette remarque. En 1970, il y a un poème qui est sur tous les murs de Montréal, qui est « Speak White ».
Oui. Vous avez entendu
White,
ça tout à l'heure,
oui. Dire,
White,
oui, Michel Lalonde, tout à fait. White, ça veut dire White Anglo-Saxon Protestant.
Ah oui, Wasp. Hein?
Oui, mais c'est White.
C'est
oui. Mais White, c'est aussi le parler blanc, c'était parler anglais.
C'est ça, oui.
Hein? Alors, c'est un très beau texte, pamphlet, qui est sur les murs de Montréal. Et 1990, je crois, ou même avant, un autre pamphlet sort qui est un clin d'œil à Speak White de Lalonde, de Michel Lalonde, de Marco Micone, Speak White, qui attire l'attention des Québécois sur le fait que la population n'est plus maintenant divisée en deux, mais il y a tous les nouveaux arrivants, c'est-à-dire les multi-ethniques, la population de Montréal, et les Italiens prennent la parole, Fulvio Cassia, s'il était là, nous le dirait bien, hein, montre que, oui, Speak White, ça a été quelque chose, mais Speak What, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Il y a toute la population des arrivants qui ne sont plus des Québécois, des anglophones. Donc, la question s'élargit en fait à d'autres langues aussi. Il y a les Italiens en particulier. C'est un très beau texte aussi, qui est un clin d'œil.
Micone.
Micone, oui. Ouais.
Autre question aussi, je m'intéresse quelquefois un petit peu aux conditions matérielles des gens. Donc il était très pauvre à Montréal, il est seul, inconnu, et tout d'un coup, enfin, comment est-il arrivé, comment vivait-il sa matérialité, est-ce qu'il gagnait, comment il gagnait son argent, comment faisait-il pour vivre?
Alors, il a été éditeur, il a été dans l'édition, ça a marché très très bien.
Ah, oui.
il a fait ça pendant 30 ans et il s'est donné totalement à cette maison d'édition.
Le premier recueil qui sort en 70 s'est vendu à des très très bien vendu, à des centaines de mille d'exemplaires. Il a été invité, je pense que, mais il a vécu de nature, c'était quelqu'un de simple qui ne cherchait pas du tout à avoir pignon sur rue, et les gens le disent. Il y a des beaux textes de Brault, de Jacques Brault, que j'aime beaucoup, c'est un grand poète, sur Miron, Marcotte, enfin beaucoup ont écrit sur la simplicité de cet homme qui vivait de peu, qui ne cherchait pas du tout, il le dit d'ailleurs, il ne cherchait pas du tout à avoir les honneurs. Il dit, mais lisez-moi, vous me connaîtrez, lisez-moi. Et je pense que les textes que vous avez lus montrent en fait la simplicité profonde. C'était quelqu'un de simple, Miron, oui, de simple. Il cherchait pas du tout à les honneurs. Bon, il était content quand je venais.
Oui, quand même, bien sûr.
Mais en France, on a beaucoup apprécié Miron. Oui.
Et tu l'as connu donc comme
homme? Je ne peux pas dire que je l'ai connu personnellement.
Non,
oui, je l'ai rencontré là à Paris. J'ai déjeuné avec lui et sa femme, enfin, sa compagne à l'époque. C'était quelqu'un qu'on écoutait. Parce qu'il avait d'abord un timbre assez haut et il prenait la parole et bon, il avait un plaisir de l'écouter. On avait qu'à absorber ses paroles, on pouvait difficilement. Mais c'est pas lui qui cherchait à s'imposer. Il mettait devant ben, le problème de la langue des Québécois, le problème des Québécois. Il se mettait derrière tout ça. Et je vous dis, à Aix, ça a été un grand succès quand il est venu. Voilà. Alors la question, c'est pourquoi est-il si peu connu? Moi, je l'ai enseigné et j'avoue que c'est pas si longtemps que ça qu'on commence enfin. Bon, il y a eu l'agrégation pour les futurs professeurs, je pense, vont maintenant parler de Miron. Alors peut-être que si on n'a pas une connaissance un peu du milieu, moi j'ai vécu 70 et les années 70 au Canada, où l'attention, je me fais inviter par des amis poètes et on me dit mais viens, on va au restaurant, parle même en 80 même plus tard, et on demande le menu en français, on dit on veut ça. On nous écoute, et puis François Hébert en dit, attends, nous répondaient en anglais. À aucun moment, les serveurs nous répondaient en français. Et pour eux, c'était une humiliation comme ça. Mais tu te rends compte? On dit, mais c'est pas possible. Continue à nous parler en anglais. Donc c'était très dur. C'était très dur. Voilà. Mais aujourd'hui, on peut le lire sans tenir compte de tout ça, je pense.
Je crois, oui.
Je ne sais pas. Toi, tu connaissais Miron?
Un petit peu.
Oui, bah tu l'as lu sans trop de difficultés. Oui. Non, il y a un peut-être. Il joue avec la syntaxe. Il malmène la langue. Il faisait une opposition, pas une opposition, une distinction entre la langue maternelle et la langue natale. Alors, mais qu'est-ce que c'est la langue natale? C'est la langue maternelle? Non, la langue maternelle, c'est la langue qu'on parle entre nous, la famille. La langue natale, c'est tous les moyens que l'on se donne pour écrire dans l'étendue de la langue. C'est-à-dire, on peut emprunter, on travaille la langue, mais on se donne les moyens. On sort de la seule langue personnelle, populaire, du départ.
Et pourquoi il appelle ça natal, alors?
Ben, natal, parce que ça sera quand même la langue du Québec.
Ah, d'accord.
Hein, la langue du Québec, parce qu'il y a des expressions québécoises, étant donné que depuis 1763... le traité, si je ne me trompe pas, le traité de Paris, ils ont eu le temps de prendre des mots.
Des mots, bien sûr.
Hein, des mots au continent nord-américain. Ils parlent de l'orignal, ils parlent des plantes qu'on trouve dans ces territoires-là. Donc il y a tout un vocabulaire qui s'intègre.
Oui, ce qui fait qu'en France, parfois, moi j'ai lu des livres de Canadiens, enfin de Québécois. Je ne savais pas si vraiment il malmenait la langue ou si c'était parce qu'il y avait effectivement des mots spécifiques au Québec. Je pense à un roman qui m'a vraiment fasciné. Je ne sais pas quelle est la part de l'inventivité et du. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais c'est un roman qui s'appelle Le Jeu des Corneilles.
Bauchemin.
Oui, c'est ça.
C'est voilà. Le chemin, oui.
Alors, je ne sais pas quelle est la part du...
Oui.
Je ne sais pas s'il m'amène à l'ange, si c'est vraiment...
Oui, je ne l'ai pas lu. Mais oui, bah, ils ont quand même des structures qui ne sont pas les nôtres. Hein. Oui. Oui, il y en a qui ont écrit même en joual, Tremblay a fait le dramaturge Tremblay a fait une œuvre où le joual est très important. Non, Jean Godbout, Renaud, oui. Oui.
Et alors, je relis la première phrase que j'ai dit, mais je déparle à voix haute.
Oui.
Alors, il y a des jeux, bien sûr. Et alors, je déparle.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, c'est justement le côté privatif, le préfixe « des » qu'on voit souvent. Hein, ça leur l'a entendu.
Oui.
Ben, oui. Donc, je parle mal à côté. Je parle. J'arrive pas à parler.
Et en même temps, à voix haute.
À voix haute.
C'est,
oui.
C'est un peu contradictoire.
Oui. 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 Mais chaque lecteur le reçoit en fonction de sa sensibilité. Moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule lecture qu'on peut faire d'une œuvre poétique.
Je fais un lien avec le poète d'origine suisse, Alexandre Voisard, qui parlait du déjeu.
Du
déjeu.
Ah, du déjeu.
Donc, c'est aussi très privatif avec le jeu. Voilà. Je parlais d'Alexandre Voisard, évidemment.
Je me permets de dire que, au fond, cette idée de représentation poétique qui s'inscrit dans une démarche poétique, dans la mesure où un poète, c'est quelqu'un qui utilise la langue pour créer une autre langue, finalement.
Sa langue.
Part de la langue de tous les jours, ou de tout, de tel ou tel élément de la société, pour faire une autre langue, sa langue, à lui, sa langue de poète.
Mais je vais aller plus loin dans ce que vous dites, parce que me revient à l'esprit un vers Rémy Ronde. Où à la fin, il dit « Laissez-moi à Mironner ». Il fait un néologisme avec son nom. Ah, mais « Laissez-moi à Mironner ». C'est
c'est une forme de question. Quand vous parliez tout à l'heure de l'homme rapaillé, je crois qu'on ne peut pas faire abstraction de cette période où justement Miron a été profondément lié à l'Hexagone. Il s'est dépensé plus... pour les autres, finalement, tous les, justement, vous citiez Jacques Brault ou d'autres, et donc il a un petit peu négligé sa propre production, et c'est pour ça qu'on est contraint, il a été contraint lui-même à prendre bout à bout les choses qu'il avait pu publier, ça et là, dans des revues.
Vrai, c'était un homme d'action.
C'est tout un mode de sa vie.
Oui. Il le dit d'ailleurs.
Il le décrit d'ailleurs comme un animateur, comme un batailleur d'ailleurs. Hein.
Il le dit à plusieurs reprises, je suis un homme d'action, je ne peux pas écrire. Mais au fond de lui-même, il le dit aussi, il dit, mais je ne peux pas m'arrêter d'écrire. Mais il n'est pas content, il n'est jamais content de ce qu'il écrit, jamais. Jamais, c'était il était toujours à la recherche de ce qu'il appelait le mot juste. Le mot
c'est juste.
Quel poète n'est pas à la recherche d'un mot juste ?
Jean Dor de Jarbeau, qui a-t-il publié qu'on connaîtrait en France ?
Alors, qu'on connaîtrait en France ? Il a fait connaître des poètes. Il y avait les anciens, bien sûr, mais est-ce qu'on les connaît ? Yves Préfontaine, ça vous dit quelque chose ? Yves Préfontaine, non ? Alors, il y a Anne Hébert qui l'a fait connaître. Anne Hébert, parce qu'à la fin des années 40, Anne Hébert publie un recueil qui s'appelle Les Chambres de Bois. Les Chambres de Bois. Mais la poésie vient après. Oui, il l'a fait connaître. Pardon ?
Garnaud.
Oui, Garnaud. Oui, bien sûr. Oui, oui, Garnaud. Après, oui, tous les poètes
de Saint-Denis Garnaud.
Saint-Denis Garnaud, oui. Oui, Saint-Denis Garnaud, oui. Ouais. Je vois que vous connaissez bien aussi le Québec.
Oui, c'est mon domaine.
Ah, alors. Très bien. Vous aviez lu L'Homme Rapaillé ?
Oui, oui. Vous aviez lu L'Homme Rapaillé.
Qui connaissait l'homme rapaillé parmi les...
Oui, quand même.
Oui, ça c'est l'édition. Oui, c'est l'édition.
Dans la chasse gardienne, hein, oui.
Il y avait un livre excellent de vous-même, Le forcené magnifique,
oui.
Que vous avez lu en son temps.
Oui, oui, alors celui-là, je l'avais écrit à Montréal, avec une préface d'André Brochu. Mais les Québécois ont trouvé que c'était léger. Moi, je leur ai dit, mais c'est pour le public français. C'est pas. En revanche, j'en ai une beaucoup plus sérieuse qui est celui-là. Ça, c'est. Je m'invente tel un naufragé dans ma langue. Je m'invente tel un naufragé dans ma langue. Ça, c'est les éditions Adèle. Les éditions Adèle qui ont trois collections des poètes disparus. Il y a tous les poètes, les grands poètes, Césaire, John Perse.
On n'est peut-être pas tous en même temps,
on va peut-être conclure, du reste.
Oui, non, là, le dernier livre que j'ai sorti, mais la maison d'édition, c'était un franco-algérien qui était à la tête de cette maison d'édition. C'était une superbe maison. La collection, c'était le Cercle des Poètes Disparus. Et le Cercle des Poètes Disparus, c'était tous les grands. Césaire, Saint-Gor, Saint-Jean-Père, enfin, tous ceux qui sont morts. Et je rencontre cet éditeur qui me dit, mais il n'y a rien sur le Québec. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait un... Mais la maison a disparu parce qu'il est retourné en Algérie. Mais c'est une belle maison d'édition.
Très bien.
Il y a aussi les poèmes épars qui sont publiés chez Gallimard.
Les poèmes épars.
Oui, ici. Voilà.
C'est celui-là. Là, c'est l'homme rapaillé.
Non, non,
une autre édition en poésie Gallimard. Ah, d'accord.
Oui, il y a des poèmes qui n'ont pas été repris. Hein,
C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette introduction.
Merci à vous.
Et rendez-vous au 10 octobre.